Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. C'est notre dernier rendez-vous de la semaine, une émission préparée par Mathilde Barbier, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mina Fézy, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son d'Ofar Guéride. Autrefois, il y avait le père Fouettard, personnage dont la seule évocation suffisait à faire taire les enfants. Qui pourrait lui prêter ses traits aujourd'hui ? Pourquoi pas Vladimir Poutine ? Le président russe se rapproche du candidat idéal. Il fascine autant qu'il fait peur. C'est le mal absolu, comme l'écrivait récemment le magazine Du Monde, dans un jeu de mots subtil, associant sa capacité de nuisance à la mise en scène de sa virilité. Poutine fait peur, la Russie post-soviétique ne cesse de nous inquiéter. Il faut dire qu'il y a de quoi. L'actualité ukrainienne, le précédent géorgien sont là pour nous rappeler que lorsque Moscou profère des menaces, il ne s'agit pas que de paroles en l'air. L'URSS n'est plus, mais le régime ne paraît pas avoir fondamentalement changé. En tout cas, c'est cette idée que nous allons examiner ce soir, notre rapport à ce pays que nous fantasmons au moins autant que nous le connaissons. Qu'est-ce que la Russie ? Un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme, disait Winston Churchill à son sujet. En 2014, on dirait bien que le mystère reste entier. Alors, y a-t-il une part d'irrationnel dans notre relation à la Russie ? C'est notre sujet du jour. Ils sont trois pour en discuter ce soir. Tania Rakhmanova, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste. On vous doit notamment la prise du pouvoir par Vladimir Poutine. Puis vous avez publié en 2012 à la Découverte, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs à l'époque, au cœur du pouvoir russe, enquête sur l'Empire Poutine. Pour discuter avec vous ce soir, Dimitri de Kochko, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste à la Russie d'aujourd'hui, on retrouve ce supplément publié régulièrement dans le Figaro. Une fois par mois, voilà. Bon, c'est régulier.
Troisième mercredi du mois.
Voilà. Vous présidez par ailleurs le Conseil de coordination des Russes
du Forum des
de France et l'association France Oral, des associations qui œuvrent à essayer de promouvoir une meilleure image de la Russie en France.
Pas seulement. Une meilleure coopération entre la France et la Russie.
Et cette coopération, elle passe peut-être d'abord par une meilleure image.
La francophonie et la russophonie aussi.
C'est ce qu'on va voir justement ce soir. Troisième invité, Jean-Robert Raviot, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de civilisation russe contemporaine à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous avez publié « Qui dirige la Russie ?» aux éditions Ligne de Repère en 2007. « Démocratie à la Russe » aux éditions Ellipse, c'était en 2008. Vous préparez peut-être un nouvel ouvrage.
Oui. Qui s'appellera « Ruling Russia, Mapping Putinism ».
Ce ne sera donc pas un ouvrage en français.
Et qui se parlera aussi de la Russie, de Poutine, de la société russe, et des épouvantails, et qui essaiera aussi de démolir les épouvantails dont vous avez parlé.
Et ben voilà, on va justement commencer ce soir, ça va peut-être vous donner des idées supplémentaires pour votre prochain livre. Jean-Robert Raviot, alors je précise, ce n'est pas une émission dans laquelle on va commenter l'actualité, actualité extrêmement mouvante, qui est d'ailleurs compliquée à analyser, puisque chaque jour on a un changement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, mais c'est bien justement l'image que renvoie la Russie qui nous intéresse ce soir. Est-ce que d'ailleurs pour vous, Tania Rakhmanova, vous reconnaissez votre pays dans la façon dont il est présenté aujourd'hui dans les médias français? Est-ce que ça vous paraît être une image fidèle ou est-ce qu'il y a, selon vous, beaucoup d'inexactitudes, voire d'idées reçues?
Pour être honnête, je vais peut-être vous compliquer la vie. Moi, le problème est que je ne reconnais pas mon pays tout court. Ça veut dire même dans les médias russes, ni quand je vais en Russie, c'est un peu difficile de reconnaître mon pays. Enfin, maintenant, c'est pas le pays, c'est plutôt les dirigeants du pays. La politique du pays est difficile à reconnaître et très difficile à comprendre. Parce que si notre attitude en Occident est irrationnelle par rapport à la Russie, je pense que la Russie est devenue irrationnelle.
Alors la Russie, ça ce sera d'ailleurs sans doute un objet de notre discussion, parce qu'il n'est pas question de dire qu'il n'y a que de l'irrationalité d'un côté qui serait celui des Occidentaux. Sans doute que les Russes ont peut-être sans doute une part également de responsabilité, mais en tout cas dans ce qui est reflété, dans la manière dont on en parle en tout cas, vous trouvez qu'il y a une forme de justesse ou alors plutôt d'injustice?
Bah, écoutez, moi je trouve qu'il y a un grand envie de comprendre. que oui, on a très peur de Poutine. Et c'est irrationnel, c'est probablement irrationnel, mais moi aussi j'ai un peu peur de Poutine, surtout depuis, disons, là, quelques semaines. Et donc, je pense qu'il y a un envie. Maintenant, je pense que c'est très difficile de connaître la Russie. C'est à la décharge de collègues.
Donc même quand on est russe, on a du mal à comprendre la Russie.
Tout est opaque.
Peut-être que Dimitri de Kochko a un autre point de vue là-dessus. Est-ce que, même question à Katania Rakhmanova.
Pour ce qui est du domaine de l'irrationnel, il y a incontestablement un aspect affectif et donc irrationnel dans la relation à la Russie pour ce qui est du public français. C'est vrai, c'est une relation passionnée, sans doute, par rapport à la Russie. Il y a deux autres pays qui ont ça aussi, c'est Israël et l'Algérie. Et on a dit, alors pour ce qui concerne la Russie, parce qu'on ne va pas s'étendre trop loin, traditionnellement, depuis le 19e siècle, on a toujours dit qu'il y avait des russophiles, en quelque sorte, qu'on disait représentés par la tendance Melchior de Vouguer et puis la tendance russophobe qu'on attribuait à Custine. Hein, et donc, les voyages qu'il a décrits sous Nicolas Ier en Russie. Aujourd'hui, je dirais, on retrouve les deux tendances qui sont dues quand même à une certaine écuriosité et compréhension assez profonde qui n'est pas justement dans la sphère du rationnel et qui est en misant sur les différences profondes.
Vous évoquez la vision de Nicolas Custine. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en est resté peut-être un peu à cette vision-là aujourd'hui?
Il a autant d'influence que de Vauguer, à la limite. C'est-à-dire que justement, comme il y a les deux tendances qui existent dans l'intelligentsia française, hein, pour reprendre la terminologie russe à la limite, il y a les deux tendances. Alors aujourd'hui, si on veut, il y a incontestablement tout un domaine culturel, économique, une toute petite partie politique qui est sans doute dans la tendance de Vauguer, c'est-à-dire qui est plutôt intéressé et qui est russophile. Et il y a toute une tendance russophobe, notamment les médias qui en sont à un stade de caricature. Et la couverture de l'Ukraine le montre assez bien, notamment.
Jean-Robert Aviaud, sur cette question également.
Sur la question de l'irrationalité de la perception qu'on aurait de la Russie en Occident, moi je ne pense pas que ce soit une perception irrationnelle, je pense que c'est une perception située dans l'histoire. On est dans l'après-guerre froide et la Russie est encore en Occident largement vue avec les lunettes de la guerre froide et l'Occident est encore largement vu en Russie avec ces mêmes lunettes de la guerre froide qui sont des lunettes en quelque sorte symétriques.
Même si tous les spécialistes qui viennent parler actuellement disent il ne faut pas en faire une réminiscence de la guerre froide, mais
Il ne faut pas.
Mais dans le vocabulaire, c'est vrai qu'on retrouve des éléments de.
Oui. Alors vous avez parlé tout à l'heure de. Je ne sais plus quel est exactement le mot que vous avez employé, qui était tout à fait juste. Moi, je parlerais d'épouvantail. On a d'un côté en Occident l'épouvantail Russie, que Poutine d'ailleurs incarne merveilleusement à lui tout seul.
Bon, voilà, je parlais du père Fouettard.
Le père Fouettard, voilà. Alors, l'épouvantail Russie, il sert en Occident à réaffirmer les valeurs libérales, démocratiques, etc. et à se rassurer sur nous-mêmes. Parce que, en quelque sorte, c'est l'histoire de de la méchante reine qui dit miroir, miroir, suis-je toujours la plus belle? Alors quand l'Occident se regarde, se mire dans Poutine, il se rassure et se dit finalement, c'est pas si mal. On n'est pas si mal, on est toujours le modèle, la voie à suivre, etc. Côté russe, on a un épouvantail Occident. Et qui est aussi très très présent en ce moment. Et souvent évoqué sous d'autres traits, la décadence occidentale, morale, le déclin économique, démographique, etc. qui lui sert cimenter un patriotisme russe pour souder une unité de la Russie. Le parti Russie Unie ne s'appelle pas Russie Unie pour rien. Une unité qui est complexe, qui est difficile, qui est la Russie, c'est un pays multiple, contrasté, et elle est tout sauf unie. Donc en fait, ces deux propagandes, croisées, symétriques, masquent la réalité. Moi, je pense que la guerre froide est bien terminée. On continue de penser dans ces termes-là et de débattre dans ces termes-là, et même assez profondément. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de convergence entre la Russie et l'Occident qu'on ne croit.
Alors, pour essayer d'évaluer quel serait justement le maintien de cette grille de lecture qui serait celle du temps de la guerre froide, donc celle du temps de l'URSS, Mélanie Chalandon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez regardé un petit peu la façon dont les journaux, et notamment les éditorialistes des journaux de la presse française, traitaient l'actualité du moment et comment ils parlaient de Poutine. Et manifestement, effectivement, on a du mal à sortir de ce vocabulaire qui était utilisé il y a 30-40 ans encore.
Oui, effectivement, et on ne pourra pas dire qu'il n'y a pas comme un consensus dans la presse française à l'égard de Vladimir Poutine, puisque c'est bien sur lui que se concentrent les réflexions. Libé et Ration n'y va pas par quatre chemins le 4 mars. Dans son édito intitulé « Botte, Poutine veut une Ukraine à sa botte », écrit François Sergent. C'est un homme qui ne connaît que le langage de la force. Alors on retrouve un peu le même vocabulaire dans l'éditorial de Laurent Geoffrin, dans le Nouvel Observateur le 6 mars.
Donc c'est celui qui est sorti aujourd'hui.
Exactement. Un ancien KGBiste, sans scrupules, politique brutale et calculateur. Il y a aussi le terme « maître du Kremlin » qui revient régulièrement, que ce soit sous la plume de Dominique Quignot dans La Croix. Maître du Kremlin, comment riposter à la tranquille suffisance de Vladimir Poutine, se demande-t-elle. On le retrouve également dans Le Figaro, les dessins messianiques du maître du Kremlin sous la plume de Pierre Avril le 4 mars. Et puis même les échos. Alors là, en plus de la peur, il y a même une pointe de mépris, puisque et Jacques-Hubert Rodier explique « La plus grande faiblesse de Poutine est sa mentalité de guerre froide devenue anachronique au XXIe siècle. »
Et puis il y a le monde qui parle par exemple aussi du camarade de Poutine et qui aujourd'hui, alors dans le monde daté de demain, merci beaucoup Mélanie, renvoie aux années Gromyko des années 70 et rappelle le temps de l'URSS en disant qu'on est à peu près dans la même configuration. Vous ressentez ça quand même, Tania Rakhmanova, c'est-à-dire la difficulté qu'on peut peut-être aussi avoir à sortir de cette imagerie qui a quand même très longtemps été la nôtre. On a grandi avec cet adversaire qu'était à l'époque l'Union soviétique.
Je ne veux absolument pas défendre le média français, mais en fait...
Ah, vous pouvez, hein, si vous voulez. On n'est pas là non plus pour les attaquer, hein, c'est pas le sujet ce soir.
Je veux dire que Poutine et son entourage, ils ont aussi grandi à l'époque de la guerre froide. Donc, de l'autre côté de la ligne, du mur de Berlin, ils ont à peu près les mêmes notions. Et Poutine, quand même, dans beaucoup de ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais dans ce qu'il dit, il se réfère au symbole, au moins pour les Russes, de la guerre froide. Je ne sais pas, par exemple, un exemple très simple, quand il y a ces espions qui ont été, ou espions entre guillemets, n'importe, qui sont chassés des États-Unis, il reçoit, donc il a une rencontre avec lui, il chante la chanson symbole de la guerre froide. Donc si vous voulez, c'est un peu de deux côtés.
Et est-ce plus, que vous pensez qu'il le fait parce qu'il se croit encore à cette époque-là ou parce que c'est une thématique qui fonctionne aujourd'hui auprès des Russes, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est encore extrêmement ancré dans l'imaginaire russe.
C'est un peu les deux, je dirais. Je crois que, c'est très difficile pour moi de dire ce qu'il pense vraiment Vladimir Poutine, en étant un peu loin de lui. Mais je pense que pour lui, c'est tout à fait naturel. Ça fait passer de son, ça fait partie de son éducation, ça fait partie de sa vie. Mais pour une partie de Russes aussi. Et c'est très, très encouragé en Russie. Vous regardez les films qui sont diffusés à la télé. C'est très encouragé depuis quelques années.
Dimitri Tkochko.
Alors, je voudrais reprendre justement sur cet aspect irrationnel pour rester dans le sujet. Alors, l'aspect irrationnel positif, je dirais, vous savez qu'on organise chaque année un prix russophonie. C'est la meilleure traduction du russe en français.
Ça, c'est l'association que vous présidez.
France Oral, oui. Avec la fondation Yeltsin. Donc là, vous voyez... eh bien, on s'est aperçu en faisant ce prix que c'est vers le français qu'on traduisait le plus d'œuvres écrites en russe. Ce qui est totalement irrationnel, parce que d'un point de vue de marché, le marché francophone, excusez-moi, mais c'est rien à côté du marché anglophone. Or, on traduit à peu près par an, édité, nouvelle traduction, presque une cinquantaine d'ouvrages, alors que vers l'anglais, c'est à peu près 19-20. Donc vous voyez, là, il y a un aspect, il y a un public, il y a un intérêt, il y a une vraie communion de quelque chose.
Ces ouvrages-là dont vous parlez, oui, ce sont des ouvrages de jeunes auteurs russes?
Non, pas forcément.
Ou bien alors, est-ce que c'est...
Non, il y a et du classique et des contemporains. Par exemple, il y a eu une fois la traductrice d'un écrivain contemporain qui s'appelle Prilépine, qui est d'ailleurs un opposant, qui va venir en France le 25 à la bibliothèque Buffon. Vous pourrez le voir, si vous voulez.
Ouais, petite page de pub.
Petite pub, non, mais tant qu'à faire, c'est du culturel quand même. Mais alors, maintenant, dans l'autre irrationnel, l'irrationnel négatif. Alors, ce que vous avez cité, là, les éditos, les phrases de Libé, du Monde, qui sont les grands spécialistes de l'antirusse, hein, quand même, ça, il faut bien le dire. Mais c'est. Ouais, alors là, on est dans l'autre domaine, on est dans l'autre domaine de l'irrationnel total. Parce que pourquoi s'en prendre à Poutine comme ça, alors qu'il a beaucoup moins de sang sur les mains qu'un George Bush ? George Bush a été un boucher, et en Irak et ailleurs, les catastrophes qu'il a pu créer que ce soit justement ou en Irak ou en Afghanistan, ou bien ce qu'on a pu faire en Libye, excusez-moi, mais c'est quand même des choses qui pourraient être reprochées à certains présidents. Eh bien non, il n'y a qu'à Poutine qu'on s'en prend. Alors que franchement, c'est vrai que c'est un président autoritaire, c'est un président bonapartiste, évidemment, c'est pour ça qu'il a été choisi. Mais il a beaucoup moins de sens sur les mains que beaucoup d'autres.
Je vois que Tania Rakhmanova et que Jean-Robert Ravio veulent réagir. Jean-Robert Ravio.
Deux choses, simplement, quand il a été question, effectivement, de ces images de guerre froide. Bon, je me souviens que dans sa première autobiographie qui avait été écrite par des journalistes sous dictée en 2000, Poutine disait qu'il était un fan de la série Shit i Miech, alors je ne sais plus comment on traduit ça, le glaive et le bouclier, qui était une série télévisée des années 60-70, des histoires d'espions et d'espions doubles. Bon, il y a toute cette culture de la guerre froide, culture soviétique de la guerre froide. Il y a eu un très bon livre là-dessus récemment, qui il y a aussi une culture occidentale, la guerre froide. Moi, ce que je dis, c'est que les deux cultures de la guerre froide, symétriques, continuent d'imprimer leurs traces dans le débat. Mais la réalité, vous avez parlé de Gromyko tout à l'heure, qui incarne la grisaille soviétique la plus aboutie, si on peut dire.
Gromyko, c'est la diplomatie soviétique. De Yalta jusqu'aux dernières années,
quasiment. La fin des années 70, c'est Brejnev, c'est tous ces dirigeants qu'il fallait porter pour aller sur le bolso de Lénine. Toutes ces images, les élites russes actuelles, les élites suprêmes russes actuelles, Gromyko, il n'avait pas une villa au Cap d'Antibes. Hein. Bon, les élites russes actuelles, ce sont des gens qui ont placé leurs intérêts, qui sont entrés dans le jeu du capitalisme global, qui ont placé leurs intérêts dans des banques, certainement pas à la Sberbank soviétique. Ils ont des avoirs qui circulent globalement, ils savent très bien jouer de l'évasion fiscale, des vides juridiques, et ils ont quand même un certain goût prononcé pour l'expatriation. Bon, tous ces gens-là. Alors, il me semble quand même qu'ils connaissent parfaitement les réseaux élitaires occidentaux, ils savent très bien comment ça fonctionne, ils savent très bien comment les élites occidentales raisonnent, fonctionnent ou ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal.
Donc vous voulez dire quoi, que ces élites-là ont aussi une responsabilité dans l'image qui est donnée de la Russie?
Je suis en train de dire qu'il y a une espèce de double... il y a une réalité qui est que ces gens complètement intégrés dans le jeu global veulent devenir respectables dans ce jeu global. Quand on habite à Londres et autres, bon, et pas seulement des hommes d'affaires, aussi des gens à la tête de l'État ou à la tête de ministères, de grands, disons, fonctionnaires. La rhétorique de l'Occident décadent en Russie, c'est pour le prolétaire moyen à la télé. Ça dépasse pas ça. Donc il y a un double langage. Souvent les Russes reprochent le double langage à l'Occident. Il y a un double langage en Occident. Hein, valeurs libérales et réalités, quand même, je pourrais y revenir, je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a beaucoup de convergence entre ce qu'on pourrait appeler l'état profond en Russie et une sorte d'état profond aussi dans les pays occidentaux. Je n'irai pas jusqu'à dire que Bush égale Poutine parce que c'est assez peu comparable,
mais pire,
sur le fond, il y a quand même une convergence de cette espèce d'état profond qui met en danger la démocratie aux États-Unis aussi, me semble-t-il.
C'est justement cette comparaison qui vous est réagir, me semble-t-il, Tania Rakhmanova.
Oui. D'abord parce que je suis contre les comparaisons de ce style, d'origine fait de mathématiques, donc il faut bien mesurer les comparaisons. Et d'autre part, il y a une grande différence que Bush a fait deux termes, il ne va jamais plus revenir au pouvoir. Ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine, parce qu'il a fait la guerre en Tchétchénie, on ne va pas comparer avec la guerre d'Irak, peu importe, mais il est revenu au pouvoir. Et c'est ça ce qui fait peur, parce que Bush, il est parti, mais la politique a changé, etc. Mais en Russie, ça ne change pas. Et on n'a pas vraiment l'espoir que ça va changer d'ici quelques années.
Et donc vous dites, en gros, il y a des raisons finalement d'avoir peur de Poutine. Est-ce qu'il y a des raisons d'avoir autant peur de Poutine? Ou bien est-ce que peut-être d'ailleurs qu'on devrait être encore plus effrayé qu'on ne l'est aujourd'hui par rapport à ce qu'il représente? Vous qui avez, je le rappelle, écrit sur l'Empire Poutine, au cœur du pouvoir russe.
Non, je ne pense pas qu'il faut avoir autant peur de Poutine. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de Poutine. Je pense qu'il faut avoir une opinion ferme face à lui, ce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de dirigeants politiques dans le monde ont. Et je pense qu'il faut discuter parce que le plus on s'éloigne, plus difficile ça devient. Et en plus, il ne faut jamais oublier encore une histoire de ce livre de la première personne, donc sa seule biographie qui a été écrite par Natasha Gevorkian et Kolesnikov. Quand il a raconté une histoire, quand il était gamin à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, il chassait des rats dans le sous-sol. Et un rat qu'ils ont coincé, qu'ils ont mis dans le coin, de l'horreur et de la situation sans issue, il a attaqué les gamins. Et il a raconté ça exprès. Personne ne lui a posé la question. Et il a dit que ça lui a marqué à vie. Et donc, je pense que c'est ça ce qui me fait peur, en fait.
Alors, c'est ce qu'il a marqué. Alors,
lui se censera, justement, aujourd'hui, avec les tentatives d'encerclement, notamment que mènent les États-Unis en Ukraine. C'est comme ça que sont perçues les choses en Russie.
Lui se sent comme ça, c'est-à-dire se sent attaqué.
Pas seulement lui. La plupart des Russes l'ont senti comme ça.
Mais est-ce que vous reconnaissez quand même Dmitri de Kochko qu'il y met aussi du sien pour qu'on ait cette image ? C'est-à-dire à la fois dans ses actions politiques à l'étranger, et puis également... Attendez, laissez-moi juste terminer ma question. À la fois dans sa politique étrangère, l'envoi de troupes, par exemple, en Géorgie, ça n'était pas quelque chose qui était de l'ordre du fantasme. Et puis dans la façon...
Mais Saakashvili avait attaqué d'abord, quand même, que je sache.
Néanmoins, il a quand même envoyé des troupes en Géorgie. Et puis il y a aussi la façon dont il met en scène sa façon d'exercer le pouvoir. C'est-à-dire, on voit bien qu'il joue énormément, par exemple, sur la virilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il ne joue pas aussi de ce rôle-là pour donner l'image de quelqu'un qui peut impressionner, en tout cas, à l'étranger ?
Enfin, je ne crois pas que ce soit pour l'étranger, c'est plus pour l'intérieur, je pense. Mais ceci dit, Poutine... D'abord, on présente toujours l'aspect kagibiste. Hein, là, d'ailleurs, vous n'y avez pas manqué. Hein, bon. Et alors, évidemment, dans la caricature des mondes de libération, alors là, c'est sans arrêt ça.
Bon, en même temps, il en vient, hein,
totalement.
Bien sûr. Ça fait partie de sa carrière.
Non seulement ça fait partie de sa carrière, mais c'est une des raisons pour lesquelles il est là où il est. Mais la deuxième raison pour laquelle il est là où il est, c'est qu'il était aussi l'adjoint de Sobchak. Sobchak, c'est le maire de Leningrad-Saint-Pétersbourg, ultra-libéral, apprécié des gazettes occidentales aussi. Et justement, privatisation à tout craint, y compris avec tous les vols, toutes les malversations, etc. Et à Leningrad, Dieu sait qu'il y en avait beaucoup. Hein. Donc tout ça, c'est la personnalité de Poutine en entier. Quand on est arrivé à un moment, à un stade, alors je vais faire bref, mais en gros, chacun, que ce soit Gorbatchev, que ce soit Yeltsin ou que ce soit Poutine, ont joué leur rôle à une certaine période historique. Gorbatchev a foutu en l'air le communisme, le mur de Berlin... et a commencé à s'ouvrir justement sur l'Occident. Yeltsin a poursuivi en cassant complètement le parti, au moins sans casser forcément la bureaucratie et les traditions, certaines traditions soviétiques, parce que là, elles étaient là quand même assez solidement installées, mais pour les remplacer par rien du tout, c'est-à-dire par une accumulation primitive, comme on disait, de capital, hein, c'est pour reprendre la formulation marxiste, qui était quand même une superbe anarchie où c'était les plus forts qui allaient gagner. On était dans la loi de la jungle, il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus rien, et ça arrangeait tout le monde qu'il n'y ait pas de loi, et les seules lois qui étaient faites, c'était ce qu'on appelait les bleus, c'est-à-dire les gens qui avaient des tatouages, qui sortaient des camps, et qu'on pouvait utiliser, soit des anciens Afghans, soit des flics, soit des kagébistes reconvertis, tout ce que vous voulez. On n'a plus de droit, on n'a plus rien. Une fois que les partages ont été faits, que les oligarques sont installés, que les propriétés ont été prises, on retombe dans le même schéma qu'après la Révolution française. La bourgeoisie s'est emparée des biens du clergé et de la noblesse. Elle a besoin de légaliser tout ça, de faire un code Napoléon. Et on choisit un Bonaparte, un sabre, pour imposer un certain ordre et pour imposer une certaine loi. Ils ont cherché ce sabre. Il y a eu le maréchal, il y a eu Lebed, il y a eu Rutskoy. Bon, ils n'ont pas fait l'affaire. Du coup, ils ont pris un gars un peu plus intello, c'est Poutine, bien entouré. C'est-à-dire un qui venait des forces du KGB et qui venait aussi du milieu économique, c'est-à-dire la garantie de la propriété et autres.
Alors, il y a un discours.
Poutine est un Bonaparte, c'est sa garantie, évidemment, qui doit être autoritaire, qui doit jouer du torse, notamment pour l'aspect populiste du bonapartisme.
Alors, il y a un discours qui me semble extrêmement intéressant de Vladimir Poutine pour comprendre aussi peut-être en quoi l'image persistante que nous avons pu avoir du système soviétique a peut-être contribué à orienter la politique de la Russie à l'égard de l'extérieur. C'est un discours que vous mentionnez d'ailleurs dans un article que vous aviez signé, Jean-Robert Ravio, pour la revue Hérodote, c'était en 2008, sur Moscou et la question démocratique. Vous le mettez en exergue, discours prononcé en février 2007 à Munich. Et Vladimir Poutine qui dit ceci: « Les pierres et les parpaings du mur de Berlin ne sont plus que des souvenirs, mais il ne faut pas oublier que sa chute a été rendue possible par un choix historique, en particulier par un choix effectué par notre peuple, en faveur de la démocratie et de la liberté, d'un partenariat authentique avec tous les membres de la grande famille européenne. Maintenant, on essaie de tracer de nouvelles lignes de partage. » Est-ce que pour comprendre la Russie aujourd'hui, Jean-Robert Ravio, il faut aussi se dire que peut-être que la Russie n'a pas été accueillie comme elle pensait l'être après justement la fin de l'URSS.
Ah ben c'est évident.
Incontestablement.
Ça, c'est évident, et je dois dire, c'est sans doute la plus profonde incompréhension qui peut exister. C'est-à-dire que il y avait d'abord, avant, pendant la perestroïka, il y avait ce discours sur la maison commune européenne de Gorbatchev, où Gorbatchev, pour lui, voyait une URSS, voire des républiques soviétiques indépendantes. Je pense qu'en 91, il a essayé de faire le coup à Vilnius, mais qu'il avait compris que de toute façon, ça serait difficile à maintenir. Il voyait la dissolution des deux blocs. Or, il y a un bloc qui a disparu, et l'autre bloc, l'OTAN, non seulement il est toujours debout, mais en plus il a tendance à s'étendre très très loin à l'est.
Il y avait même l'idée d'une Russie européenne.
Ah, il y avait l'idée d'une nouvelle architecture de sécurité européenne, idée de Gorbatchev, maison commune européenne, qui était reprise presque texto dans un texte de Medvedev, dans un projet de Medvedev qui était publié, je ne sais plus quand, en 2009 ou 2010. Pour refondre l'architecture sécurité européenne et avec cette idée qu'il faut en finir avec l'OTAN et qu'il faut reconstruire, disons, une architecture de sécurité où la Russie ne serait plus, disons, acculée à l'Est, mais serait de plein pied dans le concert européen. On est, alors là, je renvoie à 1815, Alexandre Ier, etc. Bon.
Qu'est-ce qui s'est passé? Sont les Occidentaux qui n'ont pas compris ce désir ou qui n'ont pas voulu?
Les Occidentaux, ils ont continué l'OTAN, c'est l'inertie. C'est l'inertie des institutions, de la bureaucratie. On connaît ça en Russie, on connaît ça aussi en Occident. On n'a pas voulu. Et puis, je crois que les Européens ne savaient pas trop, ils ne savent toujours pas d'ailleurs trop ce qu'ils veulent. Mais les Américains, ils savent très très, très bien ce qu'ils veulent. Et ils veulent effectivement une Russie. Ils l'ont dit clairement, aucune puissance régionale qui défie clairement les États-Unis, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit à l'Est de l'Europe.
Vous expliquez même d'ailleurs qu'il y a eu une instrumentalisation de la question démocratique qui obligé presque à quoi? À une sorte de repli, à l'invention d'une démocratie particulière
en
Russie.
Oui, alors ce qui est très amusant, enfin si on peut dire, dans ces histoires de propagande, disons, croisée et symétrique, c'est que l'Occident génère un certain type de réflexe russe et inversement. Et donc dans cette question démocratique, il y a eu l'invention de cette fameuse démocratie souveraine. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. Mais ce mode d'Aël, donc à un moment, Surkov, donc un des adjoints de Poutine, dans la précédente deuxième mandat, ce 2007-2008, a dit, voilà, nous n'avons pas une démocratie comme en Occident, c'est-à-dire que le problème, et comme l'a dit Tania tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir et qu'il n'y a pas de compétition pour bon, ça c'est tout à fait clair, Poutine est là, bon. Mais alors, c'est comme ça parce que nous n'avons pas les élites suffisantes pour pouvoir organiser l'alternance et la priorité, c'est la consolidation de l'État. Donc on est dans une démocratie dont le but est la consolidation de la souveraineté, ça s'appelle la démocratie souveraine. Et donc contre les atteintes à notre souveraineté qui viennent d'Occident, de l'OTAN, des États-Unis, etc. Donc on a essayé d'inventer une espèce de modèle, mais aujourd'hui on n'en est plus là parce que Poutine a été réélu et revenu au pouvoir en 2012, et ce qui a quand même pas mal changé, et dans des conditions qu'il faut rappeler, c'est-à-dire dans des conditions beaucoup moins favorables qu'il a quand même perdu une quinzaine de pourcents, ce qui l'a conduit à des amendements de son discours, de son comportement. Il a fait à peu près deux fois plus de visites à partir de 2012 à travers le pays qu'avant. Donc c'est très important de voir que, tout à l'heure vous disiez, j'en finirai avec ça, le Poutine, je suis d'accord avec Dimitri quand il dit il a été en quelque sorte recruté par Sobchak. Bon, il y a le Poutine de la fin des années 80, le Poutine des années 90, et puis il y a le Poutine tel, dans les conditions de son arrivée au pouvoir parfaitement décrites par le film d'ailleurs de Tania Rakhmanova ici présente, et puis le Poutine aujourd'hui au pouvoir. Ce sont il y a quand même une évolution, si vous voulez, quand même considérable. Ce n'est pas la même personne en 91 et en 2012.
Je vous vois acquiescer, Tania Rakhmanova.
Non, mais moi je suis tout à fait d'accord que c'est, au moins vu de l'extérieur, vu par ses actions, c'est pas la même personne. Parce qu'au début, quand il a été élu d'une manière, pas du tout, on n'a pas cherché un intellectuel, un fort, on avait un tout petit peu à court des candidats qui remplissaient certains critères.
Est-ce que vous diriez que ça n'est pas la même personne, notamment parce que les Européens, les Occidentaux, pour parler de manière un peu plus large, n'ont pas saisi l'appel qui leur était fait par les Russes à la fin de l'Union soviétique?
Oui, moi je dirais oui, tout à fait. Et ce n'est pas que Poutine lui-même, mais ça je crois que c'est vrai pour les Russes en général. Ça veut dire que les Russes à la fin, ou les Soviétiques si vous voulez, enfin à l'époque c'était quand même on était plutôt Soviétiques, à la fin de l'époque de Gorbatchev, c'est d'ailleurs le moment quand je suis venue la première fois visiter ma famille ici, on se croyait très européens, que voilà, les murs vont tomber, on va faire partie de la maison européenne. Pas nécessairement de l'Union européenne, ça, on n'était pas, on pensait pas à ça. Mais et puisque l'Europe n'a pas fait un pas qu'on s'attendait qu'elle fasse, et les États-Unis, enfin après c'est vrai que la Russie est partie dans un tel désordre que peut-être c'était difficile de négocier avec qui que ce soit, parce que c'est vrai que les années 90 c'était assez difficile. Et donc du coup beaucoup de gens se sont dit, ah bon, mais si on ne veut pas de nous, ben nous, on va construire notre pays, on va construire nos alliances, on a la Chine, on a le Kazakhstan, et donc on n'est plus européen. C'est vrai, et je pense que c'est l'attitude surtout européenne qui a joué un rôle important, plutôt que l'américain.
Je vais vous citer Hélène Kerrer d'Ancos, alors une des grandes connaisseuses hein, évidemment de la Russie et de son histoire, qui s'exprimait dans le Figaro en 2010 et qui disait ceci: « L'intelligentsia russe a souvent regardé de notre côté avec les yeux de l'amour, mais la réciproque n'est pas vraie. La seule lueur que les élites occidentales aient perçue à l'Est fut celle du communisme. Cet attrait désormais est dissipé. » Dimitri de Kochko.
Oui, incontestablement. Et après, là, c'est complètement vrai que les Russes se sont sentis trompés, désabusés, humiliés dans une certaine mesure, méprisés. Méprisés. Quand ils ont fait tomber l'Union soviétique, et c'est eux qui l'ont fait tomber, quoi. Il n'y a pas. Après, on pourra dire c'est les luttes des Baltes, etc. Évidemment que non. C'est même pas les luttes ni des Polonais ni des Allemands. Donc, ils dissolvent le pacte de Varsovie. En échange, on leur dit l'OTAN s'arrête. Ils disent très bien, on revoit la nature de l'OTAN et on est même prêt à y entrer. Et ça fait une alliance en quelque sorte européenne de l'Atlantique, de Vancouver à Vladivostok. Rien du tout. 2 ans plus tard, on leur fout l'OTAN dans les pays baltes et on installe ensuite des radars et des fusées contre la Russie. Sympathique. Ensuite, les privatisations. On privatise, on y va, on fait le capitalisme, nanana, avec tous les aspects sauvages, extrémistes et tout ce que vous voulez, des années 90. Qu'est-ce qu'on voit? Au lieu de voir l'afflux des capitaux promis de l'Ouest, souvent on voit des Américains acheter notamment le complexe militaro-industriel dans l'Oural, et ça je connais bien. Et qu'est-ce qu'ils y en font? Pour geler tout, pour qu'il n'y ait plus aucune production. En plus de ça, en y foutant quelques scientologues qui commencent à essayer de recruter des techniciens. Troisièmement, que ce soit Yeltsin ou que ce soit Gorbatchev, et c'est Yeltsin qui a parlé de la maison commune de l'Europe, avec l'idée justement, nous, Russie, on rentre dans l'Europe, on fait partie de l'Europe, de l'héritage culturel de l'Europe, de l'héritage complet de toute l'histoire européenne, on ignore complètement l'appel. Et pourtant, il n'y a que Chirac qui a un petit peu répondu avec Paris, Berlin, Moscou et Ekaterinbourg. C'est pas aller plus loin que ça, c'est tombé aussi. Là, récemment, Poutine propose au mois de janvier, dans le sommet UE-Russie, une zone de libre-échange qui était un des problèmes avec l'Ukraine. Puisque le problème pour les Russes, c'était qu'ils avaient une zone de libre-échange avec l'Ukraine. Et si l'Ukraine en avait une avec l'Union européenne, elle se mettait à exporter vers la Russie sans payer droits de douane, ce qui évidemment faussait tout. Il propose ça. L'Union européenne refuse. Alors, où on en est? Le personnel, bon, pour ce qui est du personnel politique qui tourne pas. Effectivement, le personnel politique est là, c'est sans doute à la fois des traditions soviétiques, mais aussi ce qui est venu après les années 90. Si vous voulez, le personnel politique, il va dans un parti unique, c'est comme si tous les gars qui sortent de l'ENA, de HEC, des mines, ils allaient tous dans le même parti au lieu d'aller dans 2 partis. Voilà. En France, on a 2 partis. Là-bas, ils n'en ont qu'un seul parce qu'ils refusent de jouer le jeu de la politique. Ils trouvent que c'est plus facile d'être le jeu des fonctionnaires.
Jean-Robert Raviot.
Alors, sur la politique russe, je pense qu'il ne faut pas non plus faire une poutino-manie comme on fait trop. Poutine, c'est quand même le président et il y a autour de lui, il y a quand même une équipe, il y a des gens. Enfin, il n'est pas tout seul quand même. Bon, et je pense que
ça. Et puis il y a des électeurs.
Bon, il y a des électeurs. Bon, alors les électeurs, on va pour l'instant les laisser de côté pour un tout petit instant. Je vais dire 2 choses. Je pense que c'est formé en Russie à partir de 2000, 2001. Et puis ensuite, certes, il y a eu des évolutions politiques, la création du parti Russie Unie, etc. Bon, cette démocratie que j'appelais non compétitive, ça c'est une chose. Mais surtout, ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il y a une montée et une cristallisation en 99-2000, très bien montré, puis un développement de ce que j'appellerais, ce que les Turcs appellent l'État profond, c'est-à-dire des structures politiques, administratives et oligarchiques qui fonctionnent de manière non ouverte et qui ont une très très forte influence. Bon, dont Poutine est en quelque sorte plus que le chef, je dirais, le garant en réalité. Et là, il y a des réseaux sécuritaires, des réseaux militaires, des réseaux oligarchiques, etc., etc. Et c'est ce qui neutralise et qui vampirise ce qu'on pourrait appeler l'État public, c'est-à-dire la partie visible des institutions, le Parlement, etc., etc. Et cette montée en puissance de cet État profond en Russie, il est d'abord, premièrement, sans contrôle. On parle beaucoup de ça et là, de la corruption, etc. Mais je pense qu'il faut aussi parler des méthodes de pouvoir, de pression, etc. Et il faut parler aussi du lien entre cet État profond russe et ce qu'on pourrait appeler très grossièrement les oligarchies occidentales. Et je pense que ça, c'est quand même, moi, si j'étais, si vous voulez, en Russie, il y a des gens qui sont très, qui militent contre, et qui voient ça très bien, mais qui idéalisent un peu l'Occident. Ils pensent que l'Occident est toujours une espèce de rempart de la démocratie, de la liberté, pas du tout. Je pense que les élites occidentales aujourd'hui sont extrêmement impliquées. Bon. Et c'est très, je dirais, peut-être plus préoccupant que ça n'en a l'air, ce qui explique qu'on est dans un monde très gris, où il n'y a personne n'est blanc ni noir. Regardez par exemple ce qui s'est passé cet été avec l'affaire Snowden. C'est très intéressant. Tout d'un coup, un Américain se réfugie en Russie parce qu'il a peur de se faire flinguer aux États-Unis, quand même. C'est quand même ça la réalité. On est dans un scénario parfaitement soviétique de la guerre froide des années 70. On est dans des parapluies bulgares, etc. Sauf que c'est inversé. Bon, et là, je trouve que encore une fois, ces mythes de la guerre froide tournent. Il me semble quand même que lorsqu'on critique Poutine, je ne parle pas des médias, je parle des dirigeants occidentaux, il faudrait peut-être faire le point sur l'état des lieux des liens réels, économiques, et les intérêts croisés entre l'élite russe et les élites occidentales.
Alors, on est presque au terme de l'émission sans vous demander de vous hasarder à de la politique fiction, mais comment est-ce que vous voyez-vous évoluer à l'avenir la relation entre la Russie et les Européens, en tout cas entre les Russes et les Européens? Il y a énormément de Russes qui vivent en France, hein, c'est lié notamment en particulier à la Révolution russe, beaucoup de familles, une forte communauté qui est très organisée, mais qui finalement est assez peu visible aujourd'hui. Quand on cherche des Russes à inviter dans des émissions, bah, il n'y a pas forcément des noms qui nous arrivent spontanément. Comment est-ce que vous expliquez ça, Tania Rakhmanova? Est-ce que vous espérez qu'à l'avenir, ça évolue un peu?
Déjà, je peux dire que peut-être il y a beaucoup de Russes en France, bah, quand même pas comme en Angleterre. Et je ne pense pas qu'on est très réunis, parce qu'il y a plusieurs générations, plusieurs vagues d'arrivées en France, et ils se sont pas très, il n'y a pas beaucoup de contacts entre nous, disons. Et pour le futur, je pense que quand même qu'il faut que l'Europe mène une politique un peu plus bien définie, négatif, positif, peu importe, mais une politique envers la Russie, j'espère qu'on va pouvoir négocier.
Dimitri Kochko, c'est vous qui aurez le mot bref
moi,
de la
je
fin.
Je pense que l'Europe doit définir une politique qui soit dans ses intérêts à elle et non pas dans les intérêts des États-Unis. Ce qu'elle est en train de faire actuellement, elle fait du suivisme vis-à-vis des États-Unis qui ont la politique vis-à-vis de la Russie définie par Zbigniew Brzezinski, c'est-à-dire le grand échiquier, c'est-à-dire morceler la Russie, la contenir, l'encercler et l'empêcher d'être une puissance capable de dire non. Comme ils disent, si on envoie des porte-avions près de la Russie, ça ne les impressionnera pas. Ils sont capables de donner l'asile à Snowden. Nous, la France, on a empêché l'avion de Morales d'atterrir parce qu'on soupçonnait qu'il y avait Snowden dedans. On n'a pas honte un peu? Donc il faut qu'on définisse une politique de l'Europe européenne avec la Russie et sans les États-Unis.
Eh bien, merci infiniment à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Tania Rakhmanova, Jean-Robert Ravio et Dimitri de Kochko. Je vous signale que sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, il y a une interview bonus réalisée par Mina Fezi, qui est allée voir une voyagiste qui propose des voyages en Russie et qui explique ce qu'attendent justement les touristes français qui vont en Russie. Eh bien, il y a évidemment Saint-Pétersbourg, Le musée de l'Ermitage, le mausolée de Lénine, manifestement, n'est pas... Non, justement, le mausolée de Lénine n'est pas très visité par les touristes français. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette discussion. On se retrouve, vous le savez, lundi prochain avec la question suivante. Jusqu'où sommes-nous prêts à pardonner aux politiques ?